Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 23 avril 2018. Quel bonheur de vous retrouver après une petite semaine d'absence. Quel bonheur de vous retrouver pour la revue de presse JV, votre rendez-vous quotidien 100% jeux vidéo. Vous ne le savez que trop bien. Moi c'est Bruno Roca. Pour ceux qui connaissent le principe, on va passer 15-20 minutes ensemble. Avant d'attaquer l'émission du jour, il y a eu cette semaine d'absence, là pour cause de préparation de déménagement. D'ailleurs, déménagement qui va avoir lieu la semaine prochaine, et il y aura peut-être des petits jours off, mais je peux pas encore vous dire quand exactement. Donc le temps que tout ça se mette bien, c'est-à-dire, on va dire pour la première semaine de mai, grosso merdo, il y aura encore peut-être des petites absences, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je ferai au mieux pour que tout se fasse le plus simplement possible. J'ai également du retard pour la grande revue de presse JV qui a été enregistrée maintenant il y a bien 15 jours je crois. Il y a eu des petits soucis, voilà, que ce soit au niveau technique du côté de mon PC que du côté du fichier, mais bon voilà, je vais essayer de vous rendre ça aussi le plus rapidement possible. Bref, avec le déménagement et mon nouveau boulot, c'est vrai que les marges de manœuvre sont un peu plus serrées, mais je me bats au quotidien quand même pour vous fournir l'émission. On va faire au mieux, ne vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, fait-on comme il se doit, donc ce retour en grande pompe, trompette et cotillon, on va attaquer l'émission avec une petite brochette de news. Allez, c'est parti, on ne perd pas les bonnes habitudes, mais non. Shenmue 1 et 2 coûtera au maximum 34,99€. C'est le prix affiché par Micromania ou encore ces bons vieux gars de la Fnac qui listent cette compilation sur PlayStation 4 et Xbox One. Vous le savez, ça a été annoncé pendant la petite semaine de off de la revue de presse JV. Shenmue 1 et 2 HD, ça y est, c'est officialisé, il n'y a pas de souci. Alors, les nouveautés annoncées pour cette compilation, une amélioration de l'interface utilisateur. Vous aurez le choix entre des commandes classique, donc le gameplay de l'époque, ou moderne. Alors j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'ils mettent un petit peu dans ce terme un peu fourre-tout de moderne. Les doublages japonais seront disponibles pour la première fois au grand public et des résolutions d'écran entièrement adaptables. Bref, c'est la teuf. Les plaques du Nintendo Labo seront aussi vendues séparément. En tout cas, c'est ce qui se passe au Japon et aux États-Unis. Vous savez que Nintendo Labo sera disponible le 27 avril prochain. Mais au Japon et aux States, vous pouvez déjà commander vos petites plaques de carton indépendamment. Donc on attend la confirmation chez nous, mais nul doute que ça va quand même arriver. Ubisoft Gaming Days, qu'est-ce que c'est? Eh bien, figurez-vous que c'est un atelier de création de jeux vidéo pour les adolescents. Le 25 avril 2018, donc c'est très bientôt, Ubisoft va ouvrir ses locaux de Montreuil aux petits jeunes qui n'en veulent et voulant surtout en savoir beaucoup plus sur la création d'un jeu vidéo. Alors, au programme des festivités, une présentation des différents métiers liés au développement d'un jeu vidéo, et ils pourront, ces petits jeunes, créer leur propre jeu qu'ils pourront concevoir avec le logiciel Stencil. Alors ça concerne les jeunes gens de 11 à 15 ans et ces derniers peuvent s'inscrire sur le site de l'atelier en expliquant pourquoi ils sont motivés à participer au dit atelier justement. Donc ça se passe sur gamingdays.stringly.com. Je vous mettrai l'adresse dans la description de l'émission. Mais en tout cas, si vous voulez aller encore plus vite et pas aller cliquer sur le petit lien dans la description, vous tapez Gaming Days Ubisoft sur Google et puis normalement, ça va vous amener directement à l'adresse voulue. On va reparler du remaster de Dark Souls, puisque la version Switch, qui était initialement calée pour le 25 mai, est repoussée pour cet été. Et oui, je sais, c'est triste. Et bien sûr, l'amiibo à l'effigie de Solaire d'Astora et lui-même reporté, c'est normal. Hein, bon, un petit peu de patience le 25 mai, c'est pas si loin que ça, malgré tout. De son côté, Konami annonce Castlevania Grimoire of Souls sur iOS. Et oui, c'est sur mobile. Alors le jeu fera référence à ses illustres aînés avec une vue de côté. On pourra jouer jusqu'à 4 simultanément pour collaborer en temps réel. Mais pour ceux qui aiment la castagne, hein, qui aiment distribuer des claques museau, il y aura un mode compétitif qui sera également prévu. Tout ceci va commencer via une bêta fermée au Japon pour cet été. Bon, hein, voilà, on peut pas dire que c'est hyper enthousiasmant. Mais enfin, à voir. N'est pas à l'abri d'une bonne surprise finalement. Enfin, pour terminer cette brochette de news, on va parler de la PlayStation 5, hein, qui, normalement, on en a déjà parlé dans cette émission, devrait sortir aux alentours de 2020. Eh ben, on a appris que c'est Marc Cerny, l'architecte de la PS4, qui visiblement rempile à nouveau pour la conception de la prochaine PlayStation. C'est en tout cas ce que nous dit Digital Foundry, qui a l'air, comme d'habitude, très bien renseigné. Et là, on me fait signe à la régie que je n'ai pas, hein, bien sûr, que j'ai oublié de vous préciser que Shenmue 1 et 2 HD va sortir également via Steam, hein, bien sûr. Je ne veux pas que mes amis PCistes se sentent complètement délaissés. L'erreur est réparée, l'injustice n'aura pas lieu, en tout cas pas ce matin. Allez, on passe à la suite. Arcade, Whisky, Costard, Toshiro Nagoshi, le mauvais garçon de Sega. C'est ainsi qu'est titré un excellent article premium chez GameCult, hein, un article signé Victor Moisan. Alors bien sûr, comme toujours avec les articles premium, je ne vais pas vous résumer tout ce qui est dit, juste vous résumer grosso merdo ce qu'il y a dans le premier tiers. C'est passionnant. Alors, qui est Toshiro Nagoshi? Ben, c'est le papa notamment de la saga Yakuza, mais pas que. Mais ce dossier est en ligne puisque le sixième volet des aventures de Kazuma Kiryu vient de débouler en Europe. Vous savez, Yakuza, c'est une série vraiment qui m'est très chère, que j'aime beaucoup, que je défends depuis le premier numéro. Et heureusement, depuis quelques temps, ça commence à prendre un petit peu en Europe, heureusement, enfin en Occident, tout du moins. Et donc ce dossier sur GameCult revient sur la carrière de Toshiro Nagoshi, qui est, donc Dixit, hein, GameCult, hein, une figure essentielle de Sega, dont il est à la fois le mauvais garçon et le plus fidèle historien. Alors qu'est-ce qu'on apprend au début de ce papier? Eh bien que Toshiro Nagoshi est né en 1965 dans la petite ville de Shimonoseki, et il est issu, selon ses dires, hein, je le cite, d'une famille de vendeurs de poissons qui ne s'intéresse pas aux technologies. Alors, le jeune Toshiro trouve refuge dans les salles de cinéma, et les films des années 70, hein, particulièrement, influenceront son œuvre, et plus particulièrement, bien sûr, vous vous en doutez, la saga Yakuza. On apprend que donc, Monsieur Nagoshi monte à Tokyo, hein, étant jeune homme, pour étudier le cinéma. Et il obtient un diplôme à l'Université des Arts et du Design. Peu de temps après, il est embauché par Sega. L'industrie, nous dit-on, est alors avide de talents capables de brouiller la frontière entre jeu et 7e art. Nagoshi entre chez le géant du jeu vidéo en tant qu'illustrateur, chargé de l'apparence des personnages, des décors et des effets, mais fait très vite parler de lui lors d'une réunion mémorable. En effet, en pleine réflexion sur le démo mode d'un titre d'arcade, les pontes du département se font couper la parole par un jeune homme un peu présomptueux, dont les idées font mouche tant elles condensent avec force et simplicité l'essence du jeu qu'ils essayent tant bien que mal de présenter. Le grand patron le félicite et lui demande où il a appris le marketing. « Je ne sais rien des enjeux du marketing, mais il m'a semblé que ce dont nous discutions était très proche de ce que j'ai étudié à propos du cinéma », lui répond le jeune homme. On lui confie alors la responsabilité de séquences animées qu'on n'appelle pas encore séquences cinématiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monsieur Nagoshi débute sa carrière aux côtés du grand Yu Suzuki au sein du mythique studio AM2. Yu Suzuki, alors que je représente pas, hein, quand même, papa de Virtua Fighter, d'Outrun, d'Angon, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc Yu Suzuki transmet à Nagoshi une certaine conception du cool, nous dit-on, façon Sega, mélange de vitesse associée au fun, aux couleurs flashy et à la fluidité du gameplay arcade, autant de qualités qu'on retrouve dans le premier titre de Nagoshi en tant que planeur, Daytona USA, ce jeu de caisse complètement dingo qui était sorti en 1994, et qui d'ailleurs est un large succès international Je rappelle que le jeu est développé sur la célèbre carte Model 2 et c'est une prouesse technologique tournant à 60 images par seconde. Alors pour concevoir les circuits, Nagoshi, nous dit le papier de GameCult, ce chronomètre tour après tour note le nombre de fois qu'il vira gauche ou à droite, ainsi que le temps passé à incliner le volant. Il invente de cette manière une philosophie du jeu de course qu'il rapproche de l'écriture musicale, en ce que chaque tour de piste est réglé selon une science de la partition et du groove. On retrouve cette même priorité donnée à la sensation sur un registre plus musclé certes, mais qui servira à l'élaboration des bastons du rue de Yakuza dans le beat'em up Spike Out, sorti en 1998, l'un des titres emblématiques du travail de Nagoshi au sein d'AM2. D'ailleurs, Spike Out, tout comme Scud Race, que j'ai attendu tant d'années sur Dreamcast à l'époque, mais ceci est un autre débat. Porté à l'orée du nouveau millénaire, nous dit-on, Toshihiro Nagoshi éprouve le désir de s'affranchir de l'arcade et prend la tête d'Amusement Vision, donc ex-studio AM4, entité formée en même temps que de nombreux studios qui restent dans le giron de Sega, mais qui possèdent, et là c'est important, une organisation beaucoup plus autonome qu'auparavant. Pour briser l'apathie propre aux structures japonaises, il se met à l'écoute de ses employés, leur accorde du repos quand ils traversent des phases difficiles et s'emploie à tirer profit de leur créativité individuelle en bousculant les procédures habituel de prise de décision. Oui, Nagoshi à l'époque, ça même moi je ne le savais pas, pourtant je connais un peu la carrière du bonhomme, étant fan de Yakuza, je ne pensais pas que son côté rebelle se manifestait déjà comme ça à l'époque, et donc le papier nous explique que c'est dans cet état d'esprit qu'est conçu Super Monkey Ball en 2001, un party game où l'on dirige une boule avec un singe à l'intérieur à travers un parcours d'obstacles selon un concept proche du mini-golf. C'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde, moi notamment je l'avais sur GameCube. Donc ce titre est réalisé en deux temps, donc nous dit-on d'abord en arcade, puis effectivement sur console GameCube. Nagoshi, très très humble, s'est contenté finalement, nous dit-il, d'écouter son équipe en sélectionnant les meilleures idées. Il déclare plus précisément, je le cite, « Rouler, voilà mon idée principale, je voulais que ce soit facile à diriger, qu'il y ait une boule transparente avec un personnage dedans. La conception des niveaux, les mécaniques et tous les trucs, tout est l'invention des level designers, pas de moi. Le plaisir physique qu'on éprouve à faire rouler la boule ainsi que tous les mini-jeux proviennent de mes programmeurs, tout comme le mode multijoueur à 4. Je n'ai fait que décider de ce qui serait conservé dans la version finale du jeu. » Et je trouve ça vraiment tout à l'honneur de Monsieur Nagoshi de ne pas s'approprier le succès de Super Monkey Ball. Et donc on nous dit, et j'arrêterai là, là c'est à peu près à la moitié, même pas à la moitié complètement du dossier, sachant que là j'ai déjà évincé pas mal de passages, on nous dit donc qu'avec Super Monkey Ball, Monsieur Nagoshi entame une période où il se défait quelque peu de l'esprit Sega pour, avec un plaisir non dissimulé, se rapprocher du grand rival Nintendo. Donc la suite de ce dossier passionnant à plus d'un titre est à lire sur GameCult. Essayez de gratter un petit code de lecture, un petit code premium auprès de vos contacts. Bon, si vous faites la demande sur Twitter ou sur Facebook, en général, ça s'obtient très très facilement. Et pourquoi pas de vous abonner à l'excellent premium de GameCult. On ne le répétera jamais assez. Voilà, moi ça me fait super plaisir ce dossier, puisque vous imaginez bien que la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie sur la genèse de Yakuza. Alors, je connaissais déjà pas mal de choses, pour avoir même écrit à l'époque, dans IGMAC, sur le monsieur sur la série Yakuza, mais là, on apprend encore de nouvelles choses, et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal d'interviews qui ont été données, dont des extraits savoureux sont compilés dans ce super papier. Donc voilà, c'est à lire d'urgence sur GameCult. Le remake de Final Fantasy VII veut dépasser l'original. Et ouais, c'est ce qu'on apprend sur le site DualShockers.com, un site américain, mes cocos, que je vous ai traduit rien que pour vous. Pourquoi ce papier sur DualShockers ? Eh bien parce que Square Enix a publié une nouvelle offre d'emploi et est à la recherche d'un battle planner, donc pour le remake de Final Fantasy VII. Alors je rappelle que c'est la Business Division 1, qui travaille également sur Mobius, Final Fantasy, qui a repris le développement en main de ce remake en mai 2017, après une période durant laquelle le studio Cyber Connect 2 à travailler sur les premières étapes du projet. Mais bon, vous savez, voilà, que hop, ça s'est mal passé. Et c'est Square Enix qui a repris ça sous sa coupe. Bref, le site DualShocker nous rapporte, à travers cette annonce, hein, les attentions se cachant derrière ce FF7 Remake. Tout d'abord, nous apprenons que l'équipe vise une nouvelle création qui n'est pas seulement un simple remake justement, et que le projet a pour objectif de créer un jeu, je cite, hein, qui dépasse le FF7 original, un nouveau Final Fantasy à part entière. Rien que ça. C'est, selon l'annonce, hein, je cite encore, bien plus difficile que de créer de nouveaux jeux. Il s'agit donc de créer une nouvelle vision de ce monde, hein, du monde de Final Fantasy VII, tout en conservant ce qui a plu aux joueurs de la première heure. Alors c'est pas évident, hein, vous en conviendrez. La mission est quand même assez lourde. Hein, on peut dire que sur ce coup, Square a la matéria entre deux chaises. Quoi qu'il arrive, on sait qu'au bout du compte, il y aura les insatisfaits et ceux qui seront contents, comme d'habitude. De toute façon, je pense que ce remake, quelles que soient ses qualités au final, va sûrement diviser, quoique peut-être que je peux me tromper, mais enfin. Bref, donc Square Enix continue de recruter du personnel pour mener ce développement à bien. Et on peut imaginer, nous dit DualShocker, que le développement est en retard ou a juste commencé parce que Square Enix, justement, embauche toujours pour ce projet. Mais, nous dit le site, c'est une conclusion assez stupide au final, car il est tout à fait normal dans l'industrie, hein, du jeu vidéo que les équipes de développement travaillant sur de grands projets embauchent pour différents types de postes, et ce, jusqu'au dernier mois de développement. Plus vous vous rapprochez de la fin d'un projet, plus la charge de travail s'alourdit et plus vous avez besoin de personnel. Alors en tout cas pour ce type de projet AAA, bien sûr. Bon, après il y a certainement eu aussi quelques retards, on ne sait pas tout, n'est-ce pas? Mais enfin, jusque-là, rien de choquant, et à ce niveau-là, DualShocker a quand même, je pense, une vision assez réaliste, hein, de la chose. Et donc pour revenir sur les combats à proprement dit, puisque je vous rappelle que l'annonce concerne un battle planner, hein, le travail donc consiste à élaborer, la mission en tout cas, hein, de ce battle planner, consiste à élaborer un système, hein, nous dit-on, qui combine les commandes que l'on donne aux personnages, à ses avatars, bien sûr, hein, comme un RPG à l'ancienne, mais avec, et ça c'est très important, une grosse part laissée à l'action, ce qui est la tendance, hein, des JRPG de ces dernières années. Ça ne vous aura pas échappé. Il faut également concevoir des ennemis, il y a des boss aussi à créer, et planifier l'environnement en fonction de la progression du joueur. Le jeu sera donc, hein, et je cite l'équipe de développement, un nouveau Final Fantasy, avec des éléments d'action ajoutés à la stratégie traditionnel. Ça, on le savait déjà vu les petites démos de notes d'intention qui nous avaient été données, mais ce n'est pas tout, puisque Yui Sawada et Yuri Ioki, qui sont level planners, hein, sur le remake d'FF7, donc qui besognent, hein, activement sur le jeu, déclarent que c'est un vrai plaisir de travailler sur ce remake et qu'ils s'engagent constamment à tous les niveaux du développement, du concept à la mise en œuvre, et c'est intéressant d'être si profondément impliqué tout en étant responsable du contenu et même du travail de base, hein, comme la correction de texte, etc. Bon, et là il nous faut un pot de com, bien sûr, mais enfin, le père Sawada et Yuki sont visiblement très heureux, et bah de par le fait, on est très heureux pour eux également. Bref, le remake de FF7, hein, est un projet qui a rassemblé, nous dit-on, pour conclure, beaucoup de développeurs influencés par l'original, y compris des développeurs qui ont participé à divers épisodes canoniques de la série. Bon, tout ça fait qu'on a encore envie d'y croire, en tout cas j'y crois encore, hein, comme disait Lara Fabian, j'aime citer des grands auteurs, des grands interprètes dans cette émission. Mais blague à part, bon, voilà, on l'attend tous, on a beau critiquer, etc. FF7, c'est un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, dont je fais partie, même si pour moi le 6 reste clairement au-dessus, mais ça c'est un autre débat. FF7 est l'un de mes JRPG préférés, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et donc on attend beaucoup de ce remake qui, quoi qu'il arrive, ne pourra pas ressembler au jeu d'origine. Cet article de DualShocker ne fait que le confirmer, on le savait déjà, mais je trouvais que ces petites précisions, eh ben voilà, étaient comme intéressantes. C'est toujours sympa de se mettre ça sous la quenotte. Et je crois bien, mes chers amis, qu'on se dirige actuellement vers la fin de l'émission, mais il nous reste encore quelques secondes, quelques minutes pour nous dire au revoir, dans les règles, bien sûr. Il y a un protocole à respecter, et j'y tiens. « C'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, on se retrouve dès demain, peu avant 7h, pour une nouvelle revue de presse JV. Normalement, quand je dis un peu avant 7h, ces derniers temps, elle est même carrément dispo vers 6h30. Donc si vous n'avez pas la notif, très souvent, hein, l'émission est déjà disponible vers 6h30 du mat. Donc n'hésitez pas à checker ça sur vos flux, sur vos abonnements, tout ce que vous voulez. Merci de partager un maximum, hein, de me faire part de vos retours sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé, la page Facebook, le Discord, bref, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee, toutes les infos sont sur la description de cette émission. Merci de m'avoir suivi, vraiment ravi de vous retrouver, merci pour votre compréhension et votre fidélité, et je vous dis donc à demain, gros béco, panache et robustesse, portez-vous bien, allez, bye bye.